Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Michel Verdet. Bonjour.
Bonjour.
Michel Verdet, vous êtes artiste peintre. Vous êtes ici pour nous annoncer une exposition qui se déroulera à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Ça débutera le 12 août jusqu'au 20 septembre. Vous y proposerez des peintures à l'huile. Ce sont des thèmes plutôt abstraits, mais vous allez pouvoir peut-être nous exprimer un peu ce qui est représenté sur vos tableaux. D'ailleurs, vous en avez amené deux dans le studio afin de pouvoir montrer votre travail. Alors, effectivement, on peut penser à une abstraction, mais aussi ça peut prêter à une interprétation de paysage. Hein. On pourrait même peut-être y voir une lointaine influence de Turner, ce peintre.
Oui, alors c'est une réflexion qui m'a déjà été faite, que je peignais comme Turner. Bon, je suis un peu gêné de la comparaison, parce que Turner est un grand peintre. Notamment, ce que j'aime beaucoup chez Turner, c'est la façon qu'il a eue, notamment à la fin de sa vie, de sa carrière de peintre, c'est de faire éclater la lumière. Alors là où je suis sensible, moi j'aime bien passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire souvent mes tableaux, certaines personnes les trouvent sombres, mais si on regarde de près, il y a toujours une lumière à un moment donné dans le tableau. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que c'est une peinture non figurative, mais quelque part, on retrouve des traces de paysage. Dans ma vie, j'ai beaucoup vécu à la campagne, et je pense que dans ma tête, il y a beaucoup de paysages.
Vous n'êtes pas atteint de cécité comme Turner, donc vous n'êtes pas dans cette quête de la lumière celle qui éblouit, mais vous êtes allé plutôt dans le clair-obscur, aller chercher ce qui pourrait luire dans l'obscurité.
Oui, alors le clair-obscur, ça fait penser au Caravage notamment, qui est le grand maître, en tout cas pour moi, le grand maître du clair-obscur. Ma peinture est moins travaillée, moins que le Caravage. Mais disons que c'est peut-être dans mon esprit que la condition humaine peut être sombre. Et en même temps, chacun de nous, en tout cas je l'espère, cherche la lumière. Donc c'est un peu ça. Chez le Caravage, c'était construit. Hein. Chez moi, c'est une quête, on va dire, intérieure, ou une quête inconsciente.
Il y a aussi donc ces toiles que l'on voit sur votre site internet. Hein, vous avez un site dédié où on peut y découvrir des peintures. Celles qui sont présentes au studio sont de taille modeste. On dira de à peu près de 40 cm par 30 ou 40 au carré. Mmh. Vous avez des tailles beaucoup plus grandes également.
Oui, je travaille beaucoup, mais là, c'était pas facile de les amener.
Non, bien sûr.
Oui.
Mais pour l'exposition.
Pour l'exposition, il y a des toiles qui font 1,20 m/80, enfin il y en a plusieurs, hein, 1,20 m/80, et ensuite c'est plutôt aussi du 60 m/80 ou du 60 m/70. Et puis il se trouve, peut-être l'avez-vous vu sur le site, que j'ai été amené à illustrer ou faire écho à de la poésie. Et dernièrement, j'ai illustré un texte de Pierre Maubet, qui est un texte, je dirais, sur la condition humaine. Et je vais exposer une partie des originaux que j'ai fait. Voilà, vous les avez sous les yeux, une partie des originaux de ce texte. Ce sont des petits formats adaptés à la dimension du recueil de poésie. Mais ces petits formats demandent quelquefois autant de travail que des grands formats d'1m20 sur 80. C'est autre chose.
D'ailleurs, l'approche technique est différente en fonction des tailles.
Oui, l'approche technique est très différente. Sur ces petites tailles, ça fait du 20 par 17, en gros. Je travaille à l'huile, mais très diluée. À tel point que quelquefois je travaille au sèche-cheveux, c'est-à-dire que je ne peins pas au pinceau, mais j'étale mon huile diluée en cherchant des formes par le souffle du sèche-cheveux. Alors que par contre, sur les grandes toiles, le geste est très ample. Je travaille à la spatule et je peux avoir des grandes spatules comme des petites spatules. Ce qui permet de développer un geste ample. Une autre chose aussi, sur les grands formats, j'utilise des matières pour donner certains reliefs. Et la matière, ça peut être de la cendre de bois ou du marc de café que j'incorpore dans la peinture. Et quand la peinture sèche, ça donne une matière.
Il y a donc ces divers aspects. On peut peut-être, je ne sais pas comment sont affichés sur votre site. Est-ce qu'il y a une idée de chronologie de vos œuvres qui sont présentées? Ou alors, est-ce que on peut y discerner quand même l'évolution graphique de votre art?
Alors, il n'y a pas de chronologie vraiment, bien que sur le site. Les derniers tableaux sont les derniers chronologiquement. Mais là où je relèverai votre question, sur le site, il y a toute une partie que je qualifierais de peinture classique et le Michel Verdet de fond. C'est un peu les premières peintures. Mais comme je dis à certaines personnes qui sont étonnées que je puisse faire autre chose, je suis multiple. Et notamment dans mes dernières peintures, il y a par exemple des tableaux qui sont griffés. Il y a des tableaux où on a comme des masques africains. Il y a des tableaux, où on pourrait dire, presque un peu explosés. Enfin bon. Et ben oui, parce qu'on est multiples. Et il n'y a pas que le Michel Verdet esthéticien, enfin, qui fait du beau. Il y a aussi le Michel Verdet qui a des colères. Il y a aussi le Michel Verdet qui sait que le monde est bousculé, souffre et brûle.
À voir certains tableaux, vous avez tenté aussi d'approcher d'autres artistes. Là, il y en a une qui m'évoque Marc Rothko. J'imagine que vous êtes prêté justement à travailler leur technique, à connaître un peu leur écriture dans la peinture.
Oui, si vous voulez, j'aime beaucoup aller dans des expositions. Et quand je vais dans une exposition, j'essaye de m'imprégner, au moins, peut-être pas de leur technique, parce qu'il faudrait y passer beaucoup plus de temps, mais au moins ce que vous avez appelé de leur écriture. C'est-à-dire comment ils composent leur tableau. Et c'est vrai que souvent, quand je reviens d'une exposition, je suis assez fébrile. J'ai envie tout de suite de faire quelque chose. Et forcément, la création qui sort dans les 8 jours ou le mois qui suit, elle a quelque chose qui peut rappeler Rothko ou un autre peintre.
Et donc, devant cette toile, le premier geste, c'est de l'obscurcir.
Alors, souvent, mon premier geste, c'est de poser un point de couleur. Et tout un temps, mon premier point de couleur, c'était du bleu. Et ces derniers temps, mon premier point de couleur, c'est souvent du rouge, du rouge violent. Parce que, si vous voulez, je suis peintre amateur, je n'ai pas de formation académique. Et ce qui me plaît, c'est de jouer avec les couleurs, et c'est les couleurs qui m'amènent à construire le tableau. Et ce n'est qu'au fur et à mesure où je pose mes couleurs que je commence à concevoir la construction de mon tableau. Bon, quelquefois, je le sais un peu à l'avance, mais c'est très rare. Souvent, je joue avec les couleurs, et à partir d'un trait bleu, d'une certaine teinte, je vais mettre un bleu un peu différent. Et à partir là, petit à petit, va arriver la forme. Parce que finalement, tout le problème quand on fait du non figuratif, c'est trouver sur quelle forme on va mettre les couleurs.
Il y a cette exploration, on peut parler de l'Odyssée, hein, d'Homère. C'est aussi ce voyage vers l'inconnu, de rencontre. C'est un peu ça aussi, cette rencontre avec la peinture aussi.
Oui. Et même quelquefois, le regard des spectateurs sur ma peinture me révèle à moi des choses que je ne connais pas de moi. Et quelquefois, je suis étonné de ce que dit ma peinture, que je ne savais pas. Et j'en prends conscience au fur et à mesure que je peins. Et ça, c'est très intéressant.
Il y a aussi, c'est mentionné, hein, vous allez au-devant d'établissements scolaires, peut-être aussi, pour échanger votre manière de peindre avec les enfants.
Oui.
C'est... D'ailleurs, comment perçoivent-ils ces enfants votre peinture ? Est-ce qu'il y a sujet à discussion avec eux ?
Oui, alors là, j'aurais deux réponses, une très, très brève à faire à ce que vous dites. Une fois dans une exposition, c'était à Cluny, il y a une enfant qui rentre avec sa mère dans l'exposition, et puis elle fait le tour, et puis je lui dis « Quel est le tableau que tu préfères ?» Et elle va vers un tableau très rouge, avec des traits noirs, enfin quelque chose d'assez puissant, un grand tableau. Et je lui dis « Mais pourquoi tu aimes ce tableau ?» Et elle me dit « Il est comme dans ma tête ». J'avais trouvé ça assez étonnant. Et puis alors, vous faites allusion, cette année, le conseiller pédagogique de la région, Xavier Levé, m'a demandé, ainsi qu'à d'autres artistes, de présenter des œuvres à une classe. Et j'ai eu la chance d'aller à la classe d'Aurel, avec Aurélia comme institutrice. Et j'ai présenté aux enfants 5 tableaux. Et ils avaient préparé des questions, alors des questions de tout ordre. On a passé presque 2 heures autour de ces tableaux. Et après, les enfants ont créé 7 histoires. Et c'était étonnant de voir comment leur imaginaire avait donné forme, si je peux dire, s'était emparé, si vous voulez, des couleurs surtout. Ils étaient très frappés par les couleurs et leur histoire était bâtie sur le ressenti des couleurs. Et je les ai beaucoup appréciés, ces histoires. Certaines m'ont étonné, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'était très intéressant.
La couleur, pour vous, c'est une lutte contre, avec ou contre elle aussi. Comment dire, en peinture, on expose de la couleur sur sa toile. Il y a parfois ces parties aussi d'obscurité, donc qui les atténuent. Il y a cette lutte aussi entre oui. vous dans cette conception.
Oui, parce qu'on pose la couleur, je pose de la couleur, mais quand vous parlez de lutte, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est jamais exactement la couleur qu'on voudrait obtenir. Et donc, quelquefois, je me bats, j'ai dit tout à l'heure que je travaille avec une spatule, et je mets une couleur sur ma toile, et je cherche quelle est la bonne couleur que je veux. Et donc, je rajoute d'autres peintures, et je mélange, et je remélange. Et la bagarre, elle est là, et elle peut durer longtemps. Et c'est un travail, certains disent un travail monacal, parce que quelquefois, je travaille de toutes petites spatules et c'est par petit à coup que petit à petit, j'approche la couleur que je cherche.
Il y a aussi cette couleur hein, posée sur la toile. Et est-ce que c'est elle qui amène aussi la forme, sa forme ?
Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est au fur et à mesure que je pose la couleur, que je trouve la couleur qui me plaît, que se bâtit, que se compose petit à petit la forme. Et c'est tout à fait juste.
Il y a une notion aussi du chaos. Hein. On parle de la création de la Terre dans les textes classiques. Et notamment, avant l'existence de cette Terre, il existe un chaos impalpable, ni haut, ni bas, ni profondeur. C'est un peu ça, votre travail d'approche. Est-ce que vous allez finir par peut-être créer une matière, une chose visible ?
Oui, alors vous pouvez faire allusion à la peinture notamment qui est sur l'affiche de ma prochaine exposition, qui est une peinture que j'ai créée à partir d'avoir jeté sur la toile de la cendre de bois. Et quand vous parlez de chaos, c'est quelquefois je pars comme ça de quelque chose de totalement hasardeux. C'est mon geste qui a lancé cette cendre, qui s'est collée sur la toile. Et après, il faut que je joue avec. Et oui, ça peut faire allusion au chaos, tout à fait. Mais de ce chaos, je ne sais plus quel est le peintre qui disait ça, de ce chaos naît une œuvre, naît quelque chose de beau, éventuellement.
Parfois, sur vos toiles exposées sur le site, apparaissent les traits. Est-ce que ça, c'est une approche que vous avez tentée et que vous avez peut-être délaissée ?
Oui, alors ça, c'est une approche... Bon, je reviens tout à l'heure à votre question par rapport à Marc Rothko. Il y a un peintre dont le nom m'échappe là tout de suite, mais c'est un peintre allemand. Gerhard Richter,
oui.
qui peint avec différents outils et qui notamment griffe beaucoup ses toiles. Mais alors lui, c'est d'immenses toiles. Hein, et je l'ai vu travailler enfin, sur une vidéo. Il peut prendre un râteau et griffer. Et ça m'atteint beaucoup, ça me touche beaucoup, cette espèce de... Comme s'il attaquait sa toile. Et ça fait réagir la peinture qui est en dessous. Et c'est cette réaction qui m'intéresse. Oui, Gerhard Richter, j'aime beaucoup ce peintre.
On peut parler de cet artiste allemand, donc effectivement, qui a commencé à être connu dans les années 50-60, et où il se basait, il s'inspirait de photographies qu'il reproduisait et qu'il amenait aussi cet aspect un peu photo-loupé, raté. Et là, déjà, il commençait à manipuler la peinture pour l'étirer, déformer.
Oui.
Il est passé aussi par beaucoup d'étapes. Hein. Il est passé du figuratif à une abstraction totale, voire même géométrique. Oui. Est-ce que vous êtes parti aussi du figuratif ou alors vous êtes d'emblée arrivé sur l'abstraction ?
On pourrait dire que je suis arrivé assez vite à l'abstraction parce que je ne maîtrise pas vraiment le dessin. Dans certains ateliers, j'ai dessiné une bouteille, j'ai dessiné un fauteuil, enfin bon. Mais si vous voulez, le dessin que je maîtrise mal et la peinture figurative, pour moi, il faut vraiment être très fort pour qu'un tableau résiste au regard. Bon, il y a des peintres figuratifs qui ont fait des choses extraordinaires. Hein, mais je ne me sens pas vraiment capable. Et je crois que ce que je cherche aussi dans la peinture ou dans un tableau non figuratif, c'est le voyage. C'est-à-dire que souvent, à partir d'une peinture, notamment la peinture d'autres peintres, je pars en voyage, je peux rêver. Alors qu'une peinture figurative, disons de niveau pas plus, je vais la trouver belle et puis elle ne va pas m'emmener tellement plus loin. Hein, sauf des grands peintres, je pense notamment à un peintre, puisque je parlais de nature morte tout à l'heure, ça y est, le mot est revenu, le peintre Giorgio Morandi, qui est un peintre toute sa vie, qui a mis trois bouteilles devant lui, un pot, et il a peint ça toute sa vie. Bon, là, c'est admirable. Moi, quand je suis devant un tableau de Morandi, je suis en admiration, je suis dans le silence profond. Bon, mais il faut être Morandi.
Solitaire.
Solitaire.
Oui. Voire peut-être, alors, c'est peut-être un gros mot, mais misanthrope.
Oui, mais je ne sais pas si Morandi était...
Non, parce qu'il n'a représenté que des poteries, des réceptions.
Oui, et il a passé sa vie dans sa chambre, qui lui servait d'atelier. Bon, oui.
Il y avait aussi Mondrian, j'avais envie peut-être aussi d'aborder, qui est parti du figuratif. Et puis petit à petit, s'est établie cette construction linéaire. C'est très... Est-ce que... Bon...
Alors, je ne dirais pas que Mondrian me touche beaucoup, mais dans la même... Dans la même fibre, si vous voulez, je suis très touché par des peintres, je pense à Elisabeth Bloch, si je ne me trompe pas, qui, sur des toiles très longues, fait des points. Bon. Et je pense à un autre peintre, Opalka. Opalka, c'est un peintre, un jour, qui a eu envie de mesurer le temps. Et il a pris une toile, il a marqué 1, 2, 3, il a été jusqu'à 6 millions et quelques, enfin bon, et il est mort. C'est cette obsession, presque j'allais dire, du silence par rapport à la toile. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors on peut être un peu frustré parce que ça ne représente pas quelque chose. Dans le cas poussé de Opalka, il n'y a même pas de forme, il n'y a même pas de couleur. Mais, et si la peinture, c'était une façon de vivre intérieurement? Parce que je pense que Opalka, c'est ce qu'il a fait. Enfin, c'est entre la folie et l'extase.
En parallèle de ce travail de peinture, il se photographiait au quotidien aussi.
Oui, avec la même chemise, la même coiffure.
Oui, et on voit aussi cet homme se transformer avec l'âge. Et puis aussi cet intérêt de Opalka, donc de partir de deux couleurs, hein, noir et blanc, et d'y ajouter petit à petit du blanc ou du noir, de manière à avoir quelque chose de gris à un moment donné. C'était même presque illisible.
Oui, parce qu'il ajoutait 10% de blanc au fur et à mesure. Oui. Donc à la fin, il y avait presque plus que du blanc sur du blanc.
C'est un peu en quelque sorte une disparition aussi.
Oui,
c'était un travail mûrement réfléchi en tout cas. Oui. Vous êtes dans une quête similaire. Qu'est-ce que vous allez plutôt vers la lumière ou alors vers l'obscurité?
Ah, je pense que je vais plutôt vers la lumière, mais il y a un point que je n'ai pas soulevé. Bon, il y a quelques tableaux sur le site. C'est justement, après avoir vu le travail d'Opalka ou d'Elisabeth Bloch, j'ai cherché quelle serait la démarche un peu obsessionnelle que je pourrais entreprendre. Et j'ai fait des grands tableaux avec des petits ronds. Et... Par rapport à la lumière, on peut faire des petits ronds lumineux. Hein. C'est-à-dire, je fais un fond qui peut être lumineux, puis ensuite, avec un feutre très fin, je peux faire des petits ronds. Et ces petits ronds, selon l'imaginaire, ils vont prendre telle ou telle forme. Enfin, ils vont créer telle ou telle forme. Je dirais, les deux, j'ai besoin que mes tableaux aient une part de lumière et en même temps... Si je m'écoute, je m'enfermerai bien à faire quelque chose presque un peu obsessionnel. Bon, en même temps, j'aime bien aussi travailler la couleur, faire des choses plus vives.
Les couleurs que vous utilisez émanent de tubes ou alors est-ce que vous travaillez le pigment ?
Non, ça émane de tubes. J'utilise... Donc l'huile, hein, je travaille essentiellement à l'huile. Et non, je ne crée pas mon matériau.
On parlait de ce temps aussi, hein, en référence à certains peintres. Est-ce que pour vous, le temps peut être aussi synonyme de musique avec son rythme? Est-ce que cela vous guide parfois dans, dans votre création. Vous parliez tout à l'heure de deux artistes, hein, Bach ou Keith Jarrett. Est-ce que vous écoutez parfois cette ambiance musicale qui ponctue peut-être vos tableaux?
Mais je dirais que ce type de musique, bon, notamment Bach, correspond à mon état d'esprit quand je peins. J'allais dire que peindre en écoutant la musique de Bach crée une espèce de bulle dans laquelle je suis bien. Mais je ne pense pas, enfin, que ça influence directement ma peinture, parce que je peins aussi en silence. Je ne pense pas que ça... Ou alors, si vous voulez, l'influence de cette musique, c'est l'influence sur moi-même, hein, sur tout mon être. Disons que mon être est plus imprégné de ce type de musique. Bon, après, quel est l'impact sur ma peinture? Je ne sais pas.
C'est surtout par rapport à la touche, qui est aussi une notion du temps. Hein. D'ailleurs, les touches, elles sont parfois perceptibles, parfois moins.
Oui, en général,
il y a cet effacement de vous aussi dans cette peinture.
Alors, le premier aspect, comme je travaille au couteau, souvent la touche est perceptible. Je relèverai dans ce que vous avez dit plus loin, cet effacement. Souvent, j'aime bien, je dis, peindre le silence ou le vide. C'est-à-dire que j'ai pas mal de peintures où au premier regard, il ne se passe rien. Et ça oblige le spectateur à s'arrêter au moins 5 minutes devant la toile. Parce que s'il ne reste que quelques secondes, il voit rien. Et de fait, on voit rien. Mais si on s'arrête, alors petit à petit, la lumière apparaît, les formes apparaissent. Une fois, j'ai fait une exposition qui s'était intitulée « Apparition-disparition ». Ça rejoint un peu votre question.
Il y a la peinture aussi. Vous êtes consacré exclusivement à, on peut dire, la deux dimensions, l'expression en deux dimensions. Est-ce que vous avez tenté les volumes, la sculpture?
Non.
Non. Non, c'était par rapport à Jean Fautrier, je ne sais pas si vous connaissez
oui.
son peintre.
Non, pas bien.
Mais qui utilisait la peinture comme un support de volume, presque sur ses toiles. Hein. C'était une grosse épaisseur. Je voulais savoir s'il y avait, par rapport à cette affiche utilisée pour l'expo, ça m'a fait penser un peu
Il y a un Fautrier. Peu d'épaisseur. Oui. Et de là à dire trois dimensions, ça serait... Je ne sais pas si vous connaissez le peintre Eugène Leroy, qui est un peintre de Lille, enfin de l'île de Roubaix. C'est un peu ça qui me tenterait. Eugène Leroy, c'est une peinture très épaisse.
Vous l'avez déjà vu en vidéo peindre. Il frappe sa toile avec ses pinceaux.
Oui. Et puis j'ai vu des toiles de lui à Roubaix. Oui. Et ce que je trouvais extraordinaire chez Eugène Leroy, c'est que dans l'épaisseur, il fait apparaître quelque chose. Même des portraits, mais il faut aller les chercher au fond du tableau.
Oui, il faut observer ces tableaux longtemps pour discerner. Ouais. On s'égare même.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a amené justement à exposer à l'ancien monastère?
J'ai exposé une première fois l'ancien monastère en 2018. Et cette année, j'ai repostulé. Alors, ce qui m'a amené, j'aime beaucoup le lieu. Géographiquement, le lieu est magnifique, une très belle implantation. Et puis, l'accueil, la première fois, m'avait plu. Donc, je suis content de l'exposer de nouveau au monastère. Et puis, c'est un lieu d'accueil de différents types de manifestations. Et donc, je trouve que c'est une chance parce qu'il peut y avoir des regards très différents.
Vous serez présent pour le vernissage qui aura lieu quand ?
Alors, le vernissage a lieu le 13, donc le 13 août, à partir de 17h.
Ce sera un mercredi.
Voilà, ce sera mercredi. Et je serai présent normalement le mercredi, le vendredi et le samedi, hein, l'après-midi. Hein.
Il y a des horaires pour votre présence ?
14h jusqu'à la fermeture du monastère.
Et puis, pour en connaître plus, hein, je peux inviter les auditeurs à taper votre nom, Michel Verdet. Et il y a un site, hein, Michel Verdet peintre.
Voilà.
On trouvera la suite sur les moteurs de recherche. Oui. Et pour finir cette émission, Michel Verdet, je vous remercie beaucoup d'être venu sur Air du Bois pour nous présenter cette exposition donc, à l'ancien monastère Sainte-Croix du 12 août au 20 septembre. Mmh.
Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'occasion de parler de ma peinture.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.